Chers auditeurs, la loi de la séparation de la religion et de l'école fut définitivement adoptée le 23 mars 1882 et publiée au journal officiel le 29 mars suivant. Monseigneur Ducellier attendit le carême de 83 pour réagir. Il le fit dans l'instruction pastorale qu'il publia le 23 janvier et qu'il consacra à la religion et l'école. Il aborde ce sujet, dit-il, avec tristesse, car alors qu'il devrait enseigner l'obéissance à la loi et son respect, il doit maintenant mettre en garde contre une loi, et cela parce qu'il ne peut méconnaître les principes d'ordre supérieur sans mentir à la fois à sa conscience, à son ministère et à son patriotisme. Cette séparation de la religion et de l'école est un malheur pour les enfants, pour les parents, pour le pays. Le respect dû à la conscience des enfants et à la conscience des maîtres exige, dit-on, la neutralité de l'école. Mais dans la commune, rétorque Monseigneur Ducellier, il n'y a pas un seul dissident. Tous les enfants portés sur les rôles de l'école sont chrétiens, catholiques, enfants de catholiques, destinés par les traditions de la famille, leur baptême et la résolution de leur foi personnelle à la pratique de la vie chrétienne. Dans quelques mois, dans quelques jours peut-être, ils vont accomplir un des plus grands actes de cette vie, la première communion. Le respect de la conscience des maîtres. Monseigneur Ducellier fait remarquer simplement que les maîtres sont faits pour l'enseignement, comme le médecin pour le malade, le pasteur pour le troupeau. Si la religion est un élément utile, nécessaire de la bonne éducation de l'enfant, il faut que l'instituteur soit respectueux de la religion. Et Monseigneur Ducellier conclut, « Quand il s'agit d'éducation, la première loi, c'est le bien des enfants et le respect de tous ceux qui, dans leur intelligence et dans leur cœur, comme dans les croyances et les convictions des familles, doit être respecté. » Tout ceci paraît marqué au coin du bon sens, mais visiblement, le bon sens n'avait pas droit d'entrer au Parlement. Monseigneur Ducellier aborde également la question des manuels scolaires. Il veut le faire en toute connaissance de cause. Nous nous sommes imposés, rappelle-t-il, le devoir de les lire, surtout ceux autour desquels se faisait le plus de bruit. Eh bien, ils ne sont pas de taille à remplacer le catéchisme. C'est avec la même modération qu'il va tracer aux parents chrétiens la voie à suivre pour le choix de l'école. Il est bien conscient de leurs difficultés et il sait que les situations sont très différentes. Plutôt que de brandir des interdits ou des excommunications, il fait appel à leur conscience chrétienne. S'ils ont la possibilité d'envoyer leurs enfants à une école chrétienne, qu'ils n'hésitent pas à le faire, même s'ils doivent pour cela s'imposer des sacrifices, mais compatibles avec la situation que la Providence leur a faite. La conduite sera différente s'ils n'ont à leur portée que l'école publique où s'impose la neutralité. Usez de tous les moyens en votre pouvoir. Usez de la légitime influence que vous donne la dignité du père et du citoyen pour obtenir de tous ceux qui ont autorité et surtout des maîtres, chrétiens, encore pour le plus grand nombre, tout ce qui n'est pas incompatible avec les prescriptions formelles de la loi. Veillez à ce que la religion ne soit jamais traitée en ennemi devant vos enfants. Ils sont clairvoyants. Même le silence, surtout s'il est affecté, a pour eux sa signification et son éloquence. Ce n'est pas le moindre danger de l'éducation sans Dieu. Il termine ce chapitre par un appel aux parents pour qu'ils veillent à faire à la religion une place plus grande dans leur famille au moment où cette place s'amoindrit à l'école. Heureuse la famille où l'enseignement du catéchisme est en honneur. Aucune des congrégations de religieux non reconnues n'ayant demandé l'autorisation d'exister, les décrets furent appliqués dans toute leur rigueur au diocèse de Bayonne. On commença par les jésuites, qui n'avaient d'ailleurs pas d'autres alternatives, et pour les chasser de leur résidence, fut appliqué un scénario qui allait se répéter dans le diocèse à 6 reprises. L'expulsion eut lieu le mercredi 30 juin 1882. Une foule nombreuse s'était rassemblée dès la veille à la résidence de la rue Montpensier. La plupart des personnalités que Pau comptait dans ses murs se trouvaient là. À 4h30, le commissaire se présente et devant le refus des pairs d'ouvrir les portes, un renfort d'agents et le service d'un serrurier furent requis. La porte fut forcée et les pères jésuites sortirent l'un après l'autre accompagnés d'un représentant de la force publique. Ils furent accueillis dans les familles paloises et dans les presbytères de la ville. Le décret d'expulsion était signé du préfet, le comte d'Ormesson, qui, comme son nom et son titre ne l'indiquent pas, était un fervent républicain et qui décida que les malades qui n'étaient pas alités devaient eux aussi quitter les lieux. Les scellés furent apposés sur les portes de la chapelle. La scène allait se reproduire à Pau le vendredi 5 novembre pour l'expulsion des pères rédemptoristes et le lendemain pour celle des pères franciscains. Le même jour que celle des rédemptoristes à Pau avait lieu l'expulsion des capucins à Bayonne. Il s'agissait d'appliquer les décrets contre un modeste couvent de pères capucins espagnols établi depuis de longues années dans la banlieue de la ville et de mettre à la rue 8 religieux parfaitement inoffensifs. Cela méritait le déploiement des grands moyens. Au petit jour, quelques compagnies du 49e de ligne en garnison à Bayonne et une vingtaine de gendarmes à pied et à cheval, des brigades de Bayonne et de Biarritz, occupaient militairement les abords du couvent. Il est vrai que la foule était nombreuse et très excitée contre les acteurs de l'expulsion. Quelques braillards, étrangers pour la plupart à la contrée, essayaient en vain de donner un semblant d'approbation aux actes révoltants qui s'accomplissaient. Un vénérable vieillard de 87 ans assistait à la scène. C'était M. Dubroc, ancien maire de Bayonne, qui, quelques années auparavant, avait mis une maison lui appartenant à la disposition des Capucins et qui protestait vainement contre la violation de son domicile. M. l'abbé Laparade, curé de la cathédrale, demanda l'autorisation d'enlever le Saint-Sacrement de la chapelle du couvent. Le cas n'était sans doute pas prévu et le commissaire dut en référer au sous-préfet qui refusa l'autorisation pour éviter le désordre que pouvait entraîner une procession jusqu'à la cathédrale. Il y eut pourtant une procession quand tout fut accompli, celle qui accompagna le commissaire jusqu'à son domicile sous les huées et les colibés de la foule. Le lendemain 6 novembre, c'était le tour des franciscains de Saint-Palais de recevoir la visite du commissaire. Il venait de Mauléon où il avait réquisitionné un serrurier, n'ayant aucune confiance en ceux de Saint-Palais. Là encore, il fallut essuyer les huées de la foule et écarter les obstacles qu'on avait accumulés à l'intérieur du couvent pour en défendre l'entrée. Finalement, ce furent trois religieux qui furent arrachés à leurs cellules et mis à la rue. La toute jeune communauté des bénédictins de Belloc fut la dernière à accueillir les représentants de la loi. Là encore, les choses avaient été faites en grand. Arrivèrent en tête le commissaire Fontan et le commissaire de police Devenne, suivis de quatre sergents de ville et accompagnés de deux serruriers. Venaient ensuite deux compagnies de chasseurs à pied, sous les ordres de leur commandant et une brigade de gendarmerie à cheval. Le scénario habituel se déroula ensuite, ordre d'ouvrir la porte, refus des pères, intervention des serruriers. Mais comme la porte ne voulait pas céder, il fallut escalader une fenêtre et ouvrir la porte de l'intérieur. Au dehors, la foule criait « Vive la liberté, vive la religion !» Force resta tout de même à la loi, et les huit religieux sortirent l'un après l'autre sous bonne escorte. Ce jour-là, le Saint-Sacrement, que M. le curé de la Bastide Clédance avait enlevé de la chapelle et caché sur lui, fut porté solennellement à l'église paroissiale au cours d'une procession qui s'organisa spontanément et prit l'allure d'une fête Dieu. Nous verrons la prochaine fois la suite de l'épiscopat de Mgr Ducellier et le début de celui de Mgr Fleury-Otto.